Donc, on parle beaucoup de politique et d'économie. Lequel des deux mène l'autre? On parle beaucoup d'environnement. Mathieu, là, tu as un avis à partager avec nous autres là-dessus.
Évidemment, l'économie fait avancer la politique et la politique fait avancer l'économie, où les deux sont entremêlés dans un sens. Mais je trouve qu'un des meilleurs arguments qui pourrait dire que la politique influence l'économie un peu plus, c'est juste le fait que le gouvernement peut décider où va l'argent. Alors, où vont les dépenses gouvernementales et quelles forces peuvent-ils mettre pour influencer les autres compagnies et les organismes au Canada? Alors, on peut décider d'investir agressivement dans un secteur de l'économie qu'on envisage va devenir une plus grande source de revenus, bonheur ou bénéfices plus tard. Alors, par exemple, on pourrait investir des grandes sommes d'argent pour inciter des compagnies canadiennes à se tourner à une fonction plus verte ou environnementale, investir dans ces secteurs d'énergie renouvelable, mais on peut aussi taxer les secteurs qu'on croit ne plus être bons pour les Canadiens à l'avenir, ou même simplement rendre illégales certaines activités qui peuvent endommager l'environnement. Alors, le gouvernement a énormément de contrôle et de pouvoir à court terme, on est d'accord, sur l'influence de l'économie, oui, ainsi de suite. Alors, on peut mettre énormément de pression sur les compagnies pour faire avancer l'économie. Mais là, on retourne évidemment au « je suis juste en charge pendant 4 ans, alors pourquoi est-ce que je le ferais? » Mais le gouvernement peut créer un impact énorme sur l'économie. Quoique, à long terme, si on recule, on voit que le PIB grandit plus ou moins, peu importe qui est en charge. Alors,
Parce qu'il y a du lobbying des entreprises, aussi du privé, qui pousse le gouvernement. Qui vraiment dirige? Les finances ou les politiciens?
Très vrai. Je pense que les politiciens peuvent avoir l'influence. Par contre, si là, on va ensuite influencer les politiciens, c'est comme un cercle infini. Je ne sais pas si Raymond est en accord avec ça ou désaccord, mais.
Oui, bien, Martine l'a soulevé, les lobbyings sont très forts, hein, les lobbyings
Ouais.
américains. Le lobbying américain sur l'assurance en santé aux États-Unis, c'est quasiment abominable.
Oui.
Le coût de santé aux États-Unis, 20% de le PIB, puis nous, c'est à peu près 12%. Puis, regardez le cas de COVID. Alors, ça reflète un peu les dépenses en santé, puis l'attitude vers la santé. Mais les coûts énormes d'assurance. Alors, les lobbies d'assurance aux États-Unis ne veulent pas laisser ça aller. C'est une vache d'or. Alors, c'est ça le problème. Si on avait comment il appelle ça en français? One Universal Healthcare, un programme universel, le coût sera beaucoup moins. Puis, on pourrait donner plus de services de santé à plus de monde. Aux États-Unis, il y a à peu près 30 millions qui ne sont pas assurés pour la santé. Alors, s'ils sont malades, ils voudront pas aller, ça va être trop énorme comme coût. Puis, alors, c'est un point de politique qui est influencé par le privé, le lobbying. Puis, même chose en finance. On pourra revenir en finance, mais la même chose là. La finance est énorme. La finance, elle devrait être au service de l'économie et non l'économie au service de la finance. Après Bretton Woods de Nixon, qui a cancellé Bretton Woods, après l'arrivée de Ronald Reagan, là, les lois sur le contrôle des banques, la finance, a commencé à diminuer. Puis là, ça est devenu une grosse machine à faire de l'argent. Alors, les banques sont plus intéressées à faire des profits. Là, vous avez avec l'abolition de Glass-Steagall, vous avez des propriétaires de finances qui font des salaires énormes, juste énormes, 200 millions, c'est facile, c'est peanut. Puis, à cause qu'ils sont capables de faire plein de choses. La finance, maintenant, joue dans le marché. La finance devrait pour investir puis financer des projets de société. Non, sont dans le marché. Ils font tourner la boule puis agrandir la bulle, puis un jour, la bulle va peut-être éclater. Puis la même chose avec les taux d'intérêt, qu'on veut qu'on investisse, puis les gens consomment plus, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter les prix de maisons. Alors, les maisons de 2 millions à Toronto, puis à Vancouver, c'est un peu difficile. Alors, pour le futur, là, pour ceux qui veulent acheter des logements, ça va être un petit peu difficile.
Oui. Mathieu, as-tu ta maison, toi, déjà? Es-tu propriétaire?
Non, je veux l'être. Alors, j'aime pas cet état-là du marché, mais je comprends bien.
Ouais. Mais on n'est jamais gagnant, si je comprends bien. Soit on a des maisons à des prix abordables, mais à des taux d'intérêt élevés, ce qui était le cas il y a 20 ans, ou c'est l'inverse, le taux d'intérêt est très bas depuis plusieurs années, mais ce n'est pas achetable.
C'est ça, absolument. Je répète souvent l'idée. Quand j'étais jeune, j'étais tellement pauvre. Pourquoi on est si pauvre, on a tant de besoins? Quand on est plus vieux, on a moins de besoins, mais on est un peu plus riche. C'est ça la vie.
Alors, dans un monde idéal, juste pour clore sur le côté finance, si on était dans un monde idéal ici au Canada, là, puis au Manitoba, à quoi ça ressemblerait notre économie? Sur quoi on devrait miser? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout ça? On va rêver, là.
Je vais peut-être commencer. Dans le futur, il va falloir transformer nos bâtiments, transformer la transportation, transformer l'agriculture. L'agriculture, c'est pas mal sensible pour nous autres parce que les Canadiens français ont venu dans l'Ouest puis s'établissent les petites fermes. Puis, c'était notre vie, puis les animaux. Ça va peut-être changer énormément. Puis, je ne sais pas si les gens vont être prêts à faire ce changement-là parce que l'agriculture, ça crée beaucoup de CO2, puis de méthane, puis de déforestation à l'échelle mondiale. Alors, on va faire changer notre agriculture. Alors, il va falloir créer ce que Jacques Attali dit, l'économie de la vie. Centrer notre futur vers la qualité de vie et non la quantité. Comment le propriétaire de Microsoft, j'oublie son nom, là. Bill Gates a une maison de 60 000. Est-ce que Bill Gates a besoin d'une maison de 60 000 pieds carrés? Bon. Alors, faut réduire nos attentes, puis aller vers l'écologie, l'environnement, puis respecter tout ça. Parce que, comme je disais dans l'article ce matin dans La Liberté, notre population a augmenté de 2,5 à ma naissance à 7,8. Dans l'histoire de la planète, du jamais vu. Alors, on a ajouté beaucoup de monde, puis là, on consomme beaucoup d'énergie, puis les Chinois, puis les Indiens ou les Hindous, je ne sais pas comment dire ça, là, ils veulent aussi avoir notre niveau de vie, notre standard de vie. Alors, eux, leur style de vie est à peu près 20 % de notre style de vie. Alors, parfois, nous réduire, puis eux augmenter, puis avoir un meilleur monde. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais ajouter?
Non. Je peux sauter. Mais surtout sur le côté environnemental, on dit toujours, si j'investis dans le marché à long terme, ça va monter, ça va toujours monter. Par contre, il faut qu'on s'assure que cet avenir-là et ce futur-là existent. Alors, il faut évidemment trouver des façons plus efficaces de vivre comme société de façon environnementale, mais on doit aussi promouvoir les entreprises qui font du bon travail là-dedans. Alors, au Manitoba, s'il y a une compagnie qui crée une nouvelle technologie pour rendre l'agriculture beaucoup plus efficace pour l'environnement et la production et la qualité de nourriture, il faut que les gouvernements soient prêts à agir rapidement pour promouvoir ces compagnies-là, agrandir les compagnies pour qu'il y ait plus de gens qui puissent travailler dessus. Parce qu'on est fiers d'où on travaille d'habitude, on a un sens d'attachement. Alors, si plus de Manitobains canadiens et humains en général travaillent pour des entreprises qui font du bien pour la planète, ça va changer un peu notre perspective sur nos dépenses, comment on consomme, avec qui on est ami et nos opinions en général. Alors, si on peut, dans chaque facette de notre vie, promouvoir comme l'équité, évidemment aider l'environnement, avoir un sens de créer un bel avenir pour les autres, ça va bien avancer.
On est mal parti. On consomme de plus en plus.
Oui, on consomme énormément. Alors, il faut qu'on change à un moment donné, pourquoi pas maintenant, mais on va le dire à tous les 4 ans.
Est-ce que la pandémie nous a permis vraiment, est-ce qu'on va vraiment, êtes-vous optimiste là, des humains avec la pandémie? On a eu des réflexions assez intenses là, dans les derniers 2 ans sur, justement, entre autres, sur la consommation.
Difficile à dire. Comment dis-je? Je pense que le gros problème avec la COVID, à part du virus puis de la pandémie, c'était la pédagogie de la situation. Les gouvernements doivent informer les gens, puis diriger les gens comme ils devraient. Mais là, on n'était pas certain. On va-tu porter un masque? On va-tu la distanciation? Ou le vaccin? Est-ce qu'il est sécuritaire? Et tout ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes chez les gens. Alors, le gouvernement prend l'autorité. Les autorités publiques, santé, gouvernement, prennent charge du sujet, l'expliquent clairement, puis sont tous d'accord. L'arrivée de Maxime Bernier au printemps, là, je dis, hey, ta job, toi, tu vas avoir un job au gouvernement. Le gouvernement, sa responsabilité, c'est la santé, l'éducation et les services publics. Puis là, tu t'en viens jouer le jeu politique pour te donner un nom. Je dis, je me pose des questions. Alors, faut faire la pédagogie du problème, puis bien transmettre, puis travailler fort à enlever la maladie. Puis là, on va se remettre tranquillement. Mais là, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues, quatrième vague. Alors, ça va l'automne, il peut bien y avoir une cinquième vague. Alors, les gens sont tannés, écœurés, ça peut nous jeter, là, puis le masque ou pas le masque, puis ainsi de suite. Alors, c'est puis au sud, au Canada, on fait un peu mieux. Alors, ça ralentit un petit peu, mais aux États-Unis, je sais pas, c'est devenu politisé, puis c'est devenu une bataille entre la gauche puis la droite. Puis...
Donc, on n'a pas appris grand-chose?
Non, parce que, bien, il me semble un temps, on a confronté le polio, puis on a éradiqué le polio. Alors, tu sais, il y avait un peu de résistance, mais on est venu à bout de se faire tout vacciner, puis même chose pour la rougeole, la variole, puis toutes ces maladies-là. Là, aujourd'hui, c'est bon. Il y a trop d'informations qui n'est pas bonne, puis c'est l'autre affaire. On se fait peur, puis ci, puis ça, puis il y a une résistance. Puis c'est très pénible. Ça.
J'allais justement parler du fait que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'informations qui sont disponibles pour qu'on puisse tout apprendre au sujet de comment ça fonctionne, que ce soit l'économie, les finances, le gouvernement, l'environnement, et peu importe. Mais le problème, c'est que il y a énormément de mauvaises et fausses informations qui sont maintenant disponibles et très faciles à accéder. Alors là, au lieu de créer, comme Raymond disait, avec les autres maladies, c'était un sens plutôt d'appartenance, de communauté, où on voulait vraiment s'entraider. Maintenant, c'est plutôt un « moi contre toi ». Puis ça commence avec des opinions et des faits qui sont peut-être fautifs pour ensuite promouvoir des idéologies qui ne sont pas nécessairement... bonne pour l'ensemble du peuple.
Si je peux rajouter là-dessus, Mathieu, c'est que dans un article dans La Liberté, j'avais mentionné que la santé, c'est un bien public. Et ma santé, c'est ma responsabilité, mais c'est la responsabilité collective pour sauvegarder la santé. Parce que si je suis malade, ma famille en souffre. Puis si je répands des germes, là, je peux le répandre à toute ma famille puis mes amis. Alors là, ça devient un problème assez sérieux qui se répand très rapidement. Alors, c'est cette notion-là. Même chose pour le port de la ceinture de sécurité en voiture ou bien abolir la cigarette en place publique. On travaille vers la santé publique pour le bien-être de tous et de toutes. Et c'est ça qui est important. Et non, mon droit personnel. Oui, j'ai des droits. Mais là, quand tu sors dans la place publique, il y a une autre chose qui rentre en commun. Si je vais sur la route, je ne peux pas aller 100 km tout partout où je veux aller. Il faut qu'il y a des stops, il y a des... Voilà, ainsi de suite.
C'est la grande question entre nos droits personnels puis les droits collectifs, puis comment équilibrer tout ça. C'est la grande réflexion qu'on a eue là, depuis le début de la pandémie aussi. Là. Oui. Alors...